Guerre à la guerre. Dans les tranchées, vous fûtes 4 ans. Du temps, tant de temps. Vous eûtes des poux, froids et faim. Et chez vous, une femme et 2 enfants. Loin, loin. Et personne pour vous dire la vérité. Personne pour oser la rébellion. Mois après mois, année après année. Et quand on était en permission, on voyait à l'arrière ces grosses panses se rouler dans la goinfrerie et la danse, et suer le marché noir et la cupidité. Et la horde des écrivassiers panalement gueulait: guerre, guerre, grande victoire, victoire en Albanie et victoire en Flandre. Et meurent les autres, les autres, les autres. Devant, les camarades s'effondrent. Pour presque tous, c'était le sort, blessure, souffrance de bête, mort. Une petite tache rouge sale, et on t'emporte et on t'enterre. Mais qui donc sera le prochain ? Et le cri des millions monte aux étoiles. Les hommes apprendront-ils enfin ? Y a-t-il une chose qui vaille la peine ? Qui est là, qui l'a en haut trône, de haut en bas constellé d'ordre, et qui toujours commande : tuez, tuez ! Sang et eau broyée et pourriture. Et alors, d'un coup, on dit que le bateau a coulé. Capitaine a fait ses bagages, et subitement est parti à la nage. Et les troufions restent là, indécis. Pour qui tout cela ? Pour la patrie ? Frère, serre le rang, serre, frère. Cela ne doit plus jamais se produire. On nous donne la paix du néant. Est-ce le même destin qui attend nos fils et nos petits-enfants ? Répandra-t-on à nouveau le sang dans les fossés et sur le vert des champs ? Frère, siffle quelque chose au gars. Cela ne doit, cela ne peut continuer comme ça. Nous avons tous, tous vu dans quoi une telle folie nous a foutus. Le feu brûle qu'on a attisé, qu'on éteigne. Les impérialistes qui nichent entre eux, là, de l'autre côté, nous offrent à nouveau des nationalistes. Et une nouvelle fois, après 20 ans, ramènent leurs nouveaux canons. Ce ne sera pas la paix, ce serait de la folie. La vieille danse sur le vieux volcan. « Tu ne dois pas tuer », a dit quelqu'un. Et l'humanité entend. Et l'humanité se lamente. Y aura-t-il jamais autre chose ? Guerre à la guerre et paix sur la terre.
Wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Und er ist dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben? Für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich gerne in seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken und er spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen standen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen Ruten Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe. In meinen großen Massengrabe. Seid ihr stolz auf Orden und Geklunke, seid ihr stolz auf Narben und die große Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatsfahndung der Fabrikanten, Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß der Raben, für den Graben, Junge, für den Graben.
Bonsoir. Nous vous proposons ce jour une émission consacrée à des extraits de carnets ou de lettres de combattants de la guerre 1914-1918. Tous ces documents sont authentiques, mais pour vous éviter la fastidieuse écoute du nom, du grade et du régiment de chacun des auteurs, nous avons omis de les citer à chaque fois. Quelques-uns sont extraits d'émissions de France Culture, les autres, fruits de nos recherches dans les carnets de guerre et lettres de combattants, sont dits par Combord, homme de lettres et de théâtre, et par ailleurs animateur à Radio Canu de son émission « Petit A dans le mou », et dit aussi par nous-mêmes en alternance. Vous avez d'ores et déjà entendu successivement un texte d'un auteur pacifiste allemand, Kurt Tucholsky, alias Théobald de Tigère. Le texte s'intitule « Guerre à la guerre » et il est édit par André Bonhomme, spécialement pour cette émission. Puis, du même auteur, mais en langue allemande cette fois, vous avez entendu le texte « Der Graben, la tranchée » mis en musique dans la version d'Anna Chegula. La musique étant écrite par Hans Eisler. Bonne écoute.
Hört auf Todesröcheln und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne. Schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand, die schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute. Übern Graben.
C'est décourageant. Nous sommes dans un état de malpropreté repoussante. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des amas de boue qui se meuvent. C'est avec dégoût qu'on mange le pain trempé et qu'on ne peut protéger de l'eau. J'en vois qui pleure et qui demande la faim.
Mars 1915, ferme du Chamois, Alsace. Le soir même, quand, après avoir rampé, nous arrivions vers nos camarades d'attaque pour les relever, nous constations que beaucoup d'entre eux étaient étendus à jamais sur le gazon ou accrochés au réseau. Les lignes avaient simplement été avancées de quelques centaines de mètres. La nuit est employée à creuser la nouvelle première ligne avec nos petits outils portatifs. Nous dûmes néanmoins rejoindre une contre-attaque boche qui s'était dessinée.
6 septembre 1916, mercredi soir. Ma chère mère, je t'envoie quelques lignes des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture, bombardement continuel. Toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Nous montons ce soir en première ligne, mais je ne sais pas comment cela va se passer. C'est épouvantable. Nous avons déjà des tués et des blessés, et nous avons encore 2 jours à y rester. Je donnerais cher pour être loin d'ici. Enfin, espérons quand même. Adieu, et une foule de baisers de ton fils qui te chérit. Gaston.
Secteur de Bully-les-Mines, Artois, le 8 juillet 1915. Les boyaux sont étroits, canonnades de tous côtés. Que c'est long. Des carrefours, les fusées, un trou de mine aussi grand qu'une maison. Le premier cadavre, le poste de secours, la relève, notre place, mauvais abri, nous pouvons l'achever avant le jour. Les cadavres à côté de nous, les asticots.
2 juin 1915, des éparges. Cet ensemble de tranchées est un vrai cimetière. Une centaine de morts, tous de l'attaque d'avril, sont tout autour de nous. Et l'abri de commandement du lieutenant est proche voisin d'une tombe. Et dans ce petit coin de plaine, entre les routes de Metz et Parède, il y a plus d'un millier de braves camarades du 157e et d'autres régiments qui sont tombés en avril. Ce n'était vraiment pas la peine de faire tuer tant d'hommes pour un si petit résultat. Surtout que cette tranchée payée si cher va être rebouchée, puisqu'il en est recreusé une autre à 500 mètres en arrière. Celle-ci ne pouvait plus être tenable avec les chaleurs. La côte des éparges est d'un teint roux et toute ravinée par la mitraille. Elle fait tache sur la verdure de la ligne des côtes. Comme monument de souvenir à élever sur cette côte, il faudra, après la guerre, y ériger un immense Christ en croix et entourer tout le bas de la côte d'une grille et la laisser telle qu'elle se trouve en ce moment. 4 septembre 1915, les éparges. Il serait temps que tout cela finisse. Qu'entendent par là les gens de l'arrière, que nos poitrines mettent à l'abri des balles ennemies et qui n'ont pas la pudeur de respecter ceux qui sont morts depuis une année. Ces messieurs de l'armée font la fête. Le ministre s'inquiète de fixer la nuance du kaki que messieurs les embusqués doivent porter. Est-ce que nous en avons, nous, des uniformes à la mode de bleu horizon? Ils doivent devenir pisseux, nos uniformes.
Jeudi 28 janvier 1915. Gère, toujours aussi incapable d'écrire. J'ai eu hier matin votre lettre du 23 et j'ai mis une enveloppe hier soir. Il gèle épouvantablement ce matin, sans que j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les doigts de gelée, mais le bonhomme ne vaut guère mieux, et le cafard est pire que la gelée. Car n'est-ce pas, j'ai le cafard, vous vous en doutez, et je désespère de le chasser. Il y a de quoi, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il passera. La perspective de retourner ce soir dans le vieux secteur du Bois Carré et de reprendre la vie souterraine, nocturne et marécageuse n'étant pas pour le dissiper. Voilà 6 mois bientôt que ça dure. 6 mois. Une demi-année qu'on traîne entre vie et mort, jour et nuit, cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. 6 mois. Il n'y a encore rien de fait, aucun espoir. 6 mois qu'on a quitté le fort, et l'on est un peu moins avancé qu'au lendemain du Châtelet. Tout est à recommencer. Tout cela n'a été qu'un prélude. Nous n'en sommes donc encore qu'au prologue de la tragédie dont le premier acte commencera au printemps. Hier, ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers Boche. Pourquoi? Je n'en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous, les Boches. Ils sont comme nous, et le malheur est pareil pour tous. Je vous embrasse, Étienne.
Ma chère mère, je suis bien rentré de permission et j'ai retrouvé mon bataillon sans trop de difficultés. Je vais probablement t'étonner en te disant que c'est presque sans regret que j'ai quitté Paris. Mais c'est la vérité. Que veux-tu ? J'ai constaté, comme tous mes camarades du reste, que ces 2 ans de guerre avaient amené petit à petit chez la population civile l'égoïsme et l'indifférence, et que nous autres combattants nous étions presque oubliés. Aussi tu comprendras, ma chère mère, que c'est avec beaucoup de rancœur que j'ai quitté Paris, et vous tous que je ne reverrai peut-être jamais. Il est bien entendu que ce que je te dis sur cette lettre, je te le confie à toi seul, puisque, naturellement, tu n'es pas en cause, bien au contraire. J'ai été très heureux de te revoir, et j'ai emporté un excellent souvenir des quelques heures que nous avons passées ensemble. Je vais donc essayer d'oublier comme on m'a oublié. Ce sera certainement plus difficile. Et pourtant, j'avais fait un bien joli rêve depuis 2 ans. Quelle déception. Maintenant, je vais me sentir bien seul. Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire infirme pour toujours. Plutôt la mort. C'est maintenant mon seul espoir. Adieu. Je t'embrasse 1 million de fois de tout cœur. Gaston.
brouillard sur la forêt d'Argonne. Le vent souffle vers Montfaucon. Nous voici bientôt en automne, mais la guerre ignore les saisons. Demain les combats feront rage, une pluie de feu s'abattra, rayant de la carte un village sur la colline de Vaucroix. Aucun oiseau ne chante plus au ravin des enfants perdus, au ravin des enfants perdus. La pluie a fait place à la neige sur les arbres aux troncs calcinés. Pour le bon plaisir des stratèges, la guerre alors s'est enterrée. À Vaucroix, sous les amas de ruines, on creuse sapes et galeries. Pendant 4 ans, la guerre des mines va cracher la mort sans répit. Aucun oiseau ne chante plus au ravin des enfants perdus, au ravin des enfants perdus. Les poux, la vermine et la crasse, la puanteur, les rats, la boue, les pieds pourris dans les godasses, les pilonnages qui rendent fous. La peur étreint les camarades au lance-flammes, rire grillé, au gaz moutarde, à la grenade. Leur fosse commune, c'est la tranchée. Aucun oiseau ne chante plus au ravin des enfants perdus, au ravin des enfants perdus. Dans le vacarme abominable, à l'assaut de nuit comme de jour, des hommes tombent innombrables et agonisent sans secours. L'épouvante après l'hécatombe, les cris des blessés, des mourants. Nombre d'entre eux n'auront pour tombe qu'un champ de boue gorgé de sang. Aucun oiseau ne chante plus au ravin des enfants perdus, au ravin des enfants perdus. Dans les cratères du champ d'horreur, dans les béances des trous d'obus, les insectes, les arbres et les fleurs, emportés avec les poilus. Cette nature, ces êtres de chair, comment les tirer de l'oubli? En refusant toutes les guerres, celles de demain, celles d'aujourd'hui. Nous ne voulons plus de ces souffrances. La vie s'arrête ou la guerre commence. Aucun oiseau ne chante plus au ravin des enfants perdus, au ravin des enfants perdus.
Ferme de Ferrières, fait le noyer, N, 27 octobre 1918. En me dirigeant sur la ferme de Ferrières, je cours les champs. Je savais que la lutte avait été chaude, mais je ne m'attendais pas à tant d'horreur. Un peu avant la ferme, 3 lignes de tranchées servaient d'appui à l'ennemi. Celles-ci sont remplies d'équipements, de fusils, fusils mitrailleurs, mitrailleuses, Minenwerfen, casques, etc. Et aussi de nombreux, trop nombreux cadavres au visage douloureux. J'ai le cœur serré en regardant ce terrible résultat de la guerre. Des tirailleurs sont étendus sur le terrain, tout équipés. Les Français sont aussi nombreux que les Boches. Dans les tranchées, certains morts sont debout, appuyés au parapet. D'autres, couverts de sang, le corps ou le crâne ouvert, gisent près des abris ou sur le bord de la route. Ces malheureux sont jeunes pour la plupart. Ils vont rester ainsi plusieurs jours, ainsi sans sépulture. Et je songe que chacun a, dans son pays respectif, une famille qui pense à lui et qui attend son retour.
Le 6 juin 1915 aux Dardanelles. À 11h15, nous partons à la baïonnette. Nous sommes comme fous. Figurez-vous qu'avant de charger, nous avons bu 3/4 de vin et un drum. C'est une mêlée terrible. Nos obus éclatent à 100 mètres par devant nous, faisant de terribles ravages dans les rangs turcs.
Secteur de Roy, Saint-Marc, Somme, 26 août 1918. Nous descendons avec précaution, le revolver braqué en avant. À quelques mètres de la dernière marche, nous entendons deux détonations. Nous crûmes d'abord qu'on eût tiré sur nous, puis des râlements survinrent. Nous descendîmes alors, et les deux officiers étaient par terre, noyés dans leur sang. Un était mort sur le coup, et le deuxième râlait encore. Il y avait de belles choses dans l'abri, mais, ayant vu ce fait si méritoire et noble, je n'eus pas le courage de prendre soit une jumelle, soit un revolver.
20 juillet 1915. On commence l'attaque à 6h du matin. À 9h, les Boches se mettent à nous bombarder. Ils tombent des obus de toutes parts. Il en tombe un sur le caisson de la première pièce. Plusieurs obus prennent feu. Alors les hommes de la pièce sont effrayés et veulent sortir de l'abri. Au même moment, une marmite arrive en plein sur les hommes, les met en pièces, et on ne trouve qu'une main sur le moment. Mais le lendemain, on trouve des morceaux de tous côtés. Villard a l'œil arraché, il est mort en arrivant au poste de secours. Flandrin reçoit un éclat dans le bras, Durand dans la cuisse. Orsay reçoit un éclat en pleine poitrine, il est mort sur le coup.
Le dos courbé, le regard aux aguets, les doigts crispés au fusil, nous avions franchi au pas de course des fossés vaseux, des boqueteaux où les arbres fracassés par la mitraille semblaient attendre le coup de grâce, des chemins que la déroute des canons avait labourés, des enclos où l'on eût dit que s'était abattu un ouragan de grêle, où des cadavres aux pieds nus, aux faces d'épouvante, pourrissaient sur un tapis de mirabelle, assaillis par des nuées de mouches bleues. Nous nous étions élancés vers le brave innocent qu'avait supplicié l'ennemi. Ce n'était, le long de la route qui montait lumineuse vers les vignes, que des squelettes rouges et noirs de maisons, que des pans de murs calcinés, que des amas de décombres, que des ferrailles tordues, que de pauvres meubles brisés, que des tonneaux défoncés. À l'orée du village apparaissait la façade aux brèches béantes de ce qui avait été un château, des terrasses, des charmilles, des arceaux de roses, et, comme un moignon de géant, le vénérable clocher à moitié effondré, dont ne survivait que la rosace et le cadran de la pendule. Soudain, dans ce silence de nécropole, tintèrent, graves, espacés, solennels, les 12 coups de midi.
Thank you. war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr.
Combat commencé au point du jour. Toute la journée, je me bats. Je suis blessé très légèrement une première fois. Une balle traverse mon sac placé devant moi, me blesse à la main, perce ma capote et m'érafle la poitrine. Je prends cette balle que je montre à un camarade, l'oiseau Marcel, et je la mets dans mon porte-monnaie. Je continue le combat lorsque mon camarade l'oiseau est atteint à la jambe. Je vois aussi mon lieutenant tomber, traversé par une balle. Le combat continue. Une grande quantité de mes camarades sont couchés, morts ou blessés, autour de moi. Vers les 3 heures de l'après-midi, alors que je suis en train de tirer sur l'ennemi qui occupe une tranchée à 200 mètres de moi, je suis atteint d'une balle au côté gauche. Je ressens une grande douleur, comme si l'on me brisait les os. La balle m'a traversé dans toute ma longueur en passant par le bassin et s'est logée au-dessus du genou. Aussitôt, je ressens une grande souffrance et une fièvre brûlante. Les balles continuent à pleuvoir autour de moi. Je risque d'être de nouveau atteint. Je fais donc tout mon possible pour me traîner dans un trou. J'ai bien du mal à m'y blottir. Le combat est terminé. Tous mes camarades ont battu en retraite. Et nous, les blessés, nous restons abandonnés, sans soins, mourant de soif. La nuit s'avance, comme je souffre. Je pense alors à mes parents, surtout ma mère, comme quand j'étais malade et que j'étais tout petit. Et je ne suis pas seul à penser à ma mère, car j'entends les blessés et les mourants appeler leur maman. Depuis que le soleil s'est levé, les mouches, attirées par l'odeur du sang, s'acharnent après moi. Elles sont si méchantes que je ne peux m'en débarrasser. Vers 2 heures de l'après-midi, j'entends un bruit près de moi. Il me semble qu'un homme se traîne. Je veux lever la tête pour voir, mais je n'y peux parvenir, je suis trop faible. Mais le bruit se rapproche et arrive près de moi. C'est un blessé qui se traîne sur le champ de bataille pour chercher à boire dans le bidon des morts, car il meurt de soif. Je reconnais en lui un camarade de la 11e compagnie, blessé au pied. Il se couche auprès de moi. Je suis bien content d'avoir un compagnon depuis si longtemps que je suis seul. Il me raconte qu'il a assisté au tir du point du jour. Il en est encore épouvanté. Nous passons ensemble plusieurs heures quand soudain mon camarade me dit qu'il voit plusieurs personnes. Il se met à genoux et les appelle de toutes ses forces. Elles ont entendu et viennent à nous. Ce sont des jeunes filles de la Croix-Rouge. 2 infirmières emportent mon camarade. Les jeunes filles me prennent par les bras et les jambes et veulent m'emporter. Mais les coups de fusil éclatent, car ils ne veulent pas que les infirmières me ramassent. Comme je crains de les voir blessées, je les prie de m'abandonner. Mais elles ne veulent pas. Elles m'emportent. Quelques minutes après, je suis en sûreté.
10 juin 1915. Je vais prier sur les tombes de mes camarades du 18e corps. Environ 300 corps étaient en rangée de 30. C'était bien arrangé. Tous avaient des croix en bois ou en pierre. Les noms étaient inscrits. Ils avaient des couronnes, des écritures de souvenirs et de regrets. Une fosse d'une 40aine de mètres devait encore être remplie. Cela n'avait pas de nom inscrit. Sur la campagne, pas loin de là, des boches, il y avait partout dans les terrains. Les pépères ont connu les mêmes dangers et les mêmes misères que les autres.
Dans cette tranchée, nous avons trouvé un chasseur à pied du 29e bataillon. Il a le ventre ouvert et gémit douloureusement. Sa blessure, affreuse, laisse voir ses entrailles, d'où il retire à chaque instant des brins de paille que le vent y apporte. Le lieutenant Brizou, qui nous commande, nous interdit d'emmener ce malheureux.
On les décharge au cimetière, où les gendarmes prélèvent ce qui peut les faire reconnaître, plaques d'identité, livrets, lettres. Ensuite, on part en chercher d'autres. J'en ai amené une quinzaine avec la corvée. Il y avait là un sous-lieutenant d'infanterie 45e, un lieutenant d'administration, un sous-officier du 13e d'artillerie, un sergent, et le reste simple soldat d'infanterie et deux ou trois artilleurs, dont un brigadier, la tête presque complètement enlevée par un obus. On met les morceaux dans sa musette pour l'enterrer. Des chevaux tués, des maisons brûlées, des cadavres. C'est d'une tristesse incroyable. Et pourtant, aussitôt que la mort n'est plus sous nos yeux, on n'y pense plus. Et on rit. Il est vrai que le vin et le poulet à profusion aident à noyer le chagrin.
Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist dir in deinen Arm geflogen und du hast ihm leise was erzählt? Bis sie ihn dir weggenommen haben für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm. Und wollte ihr einen Groschen schenken und spielte mit ihr Räuber und Gendarm. Bis sie ihn dir weggenommen haben für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen liegt heut Mann bei Mann. Alle Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengrabe. Sei nicht stolz auf Orden und Geklunker, sei nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatsmann und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Werft die Fahnen fort, die Militärkapellen spielen auf zu eurem Todestanz. Seid ihr hin ein Kranz von Immortellen, das ist dann der Dank des Vaterlands. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne, drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben, wollt ihr denen nicht die Hände geben, reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben, übern Graben, Leute, übern Graben, übern Graben, Leute. Übern Graben. Reich die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute. Übern Graben. Übern Graben, Leute, übern Graben.
Les éparges, du 5 au 11 avril 1915. Nous recevons des éclats d'obus de tout calibre. Il y a plus de 300 pièces de tout calibre qui tirent ensemble sur la crête des éparges, qui est environ 700 mètres. Il n'y a plus une place qui se trouve épargnée par les obus. C'est un déluge d'obus. De toutes parts, on entend des cris et des appels. C'est épouvantable. J'avais l'idée que personne n'échapperait à ce carnage. L'après-midi. Cette fois, l'ennemi s'est ressaisi et nous envoie des torpilles qui mesurent 1,15 m. Aussi, lorsqu'elles arrivent à terre, elles produisent une explosion terrible qui projette à plus de 400 mètres des pierres et des éclats. Pendant ce temps, notre artillerie redouble d'ardeur et touche en plein dans les tranchées ennemies. On aperçoit des corps projetés en l'air jusqu'à 10 mètres de hauteur, et à chaque obus des bras, des jambes, des corps déchiquetés sont projetés. C'est une horreur. Une torpille tombe au milieu d'une de nos sections et fait subir aux nôtres le même sort que nos obus à l'ennemi. Des corps déchiquetés sont lancés à plus de 100 mètres de distance. Lorsque tout à coup, un obus vient tomber à 1 mètre derrière moi, démolissant le parapet, il me projeta avec une violence inouïe dans la tranchée et m'ensevelit. J'avais les bras de libre et la tête. J'avais le visage tout labouré d'éclats de pierre. Je porte mes mains à la figure et je constate que je saignais en abondance. Je devais aller au poste de secours, mais ne pouvais me dégager. C'est un camarade de Belfort, du nom de Meyer, café des chasseurs, rue Saint-Joseph, qui me dégagea. Ces combats durèrent 4 jours avec un acharnement inouï. Le terrain était couvert de cadavres. Ces combats nous avaient donné la fièvre, et malgré un temps épouvantable, nous mourions de soif. Nous n'avions comme ressource que l'eau sale des trous d'obus où découlaient les eaux de pluie qui avaient lavé les cadavres. Beaucoup d'hommes étaient devenus fous, et notre bataillon, à l'effectif de 900 hommes, se trouvait réduit à 287. Malgré que nous tenions la crête, les combats continuaient avec acharnement sur un point nommé Point X. Le 9 au soir. 40 hommes de ma compagnie désignés pour renforcer la 11e, qui ne restait qu'à 34 hommes. Nous partons dans le noir à 21h30. On ne voyait pas devant soi, et à chaque instant nous tombions dans les trous d'obus. Arrivés au boyau dénommé Boyau du Colonel, là c'était le bouquet. Plus nous avancions, plus nous nous enfoncions dans l'eau et la boue. Nous sommes arrivés à un moment où nous étions dans l'eau boueuse jusqu'au ventre. Alors ma colère n'eut plus de limite. Je me mis à gueuler de la plus belle façon en traitant nos chefs de bandits et d'assassins. Ma colère était tellement grande que si un chef m'avait embêté, je lui aurais tiré dessus. Le plus pénible dans mon affaire, c'est que je perdais un de mes souliers et pas de cordon pour le lier. À chaque pas que l'on faisait dans ce boyau, on entendait de pauvres blessés qui appelaient au secours, mais ça, nous était impossible d'y aller, puisque même avec tous nos membres de libre, nous n'arrivions pas à nous dégager. Arrivé à proximité d'un abri entièrement rempli, comme j'étais très fatigué, je me couche dans 15 centimètres de boue et je dormis d'un profond sommeil, car j'étais resté 3 jours sans dormir.
Ils se battent à coups de baïonnette et de grenade. L'autre bataillon s'élance sur la deuxième ligne et arrive même jusqu'au cimetière. Mais malheureusement, le fil téléphonique qui servait de commandement à l'artillerie et qui était installé dans notre première ligne est coupé. Et notre 75 tire toujours, mais trop court et tue de nos hommes. Nous restons maîtres des 2 lignes de tranchées.
Dimanche 4 avril 1915. Nous partons à 9h du soir pour aller prendre l'offensive aux Éparges. On nous dit que nous avons à prendre 2 tranchées allemandes et le village de Mézeray. C'est notre secteur d'opération et notre section est désignée pour charger les premiers. Ce n'est pas ce qui nous fait le plus plaisir, mais il n'y a pas à reculer. Nous partons tous avec espoir de revenir, mais seulement la pluie ne cesse de tomber, ce qui ne nous arrange pas. Nous approchons toujours. Les fusées éclairantes des boches nous éclairent, et à chaque fois, dès qu'on se lève, il faut tomber à plat ventre dans la boue. On est joli. La fusillade commence. Les balles sifflent à nos oreilles. Zoum, zoum. Mais trop haut. On nous fait charger nos fusils et à la queue leu-leu, nous passons derrière un chemin pour aller occuper tout à fait l'extrémité de nos positions, puisque c'est à nous de commencer. Nous arrivons à 2 ou 3 heures du matin, nous mettons sac à terre dans la boue. Nous sommes derrière une palissade faite de claies, derrière lesquelles on avait jeté de la terre, car il était impossible à cet endroit de faire des tranchées. 5 avril 1915, les Éparges, Meuse. La pluie tombe toujours. On va couper les fils de fer qui sont devant. Je ne suis pas désigné pour cela, mais ceux qui y vont retombent tous. Le jour commence à paraître, et nous voyons arriver nos cuisiniers qui nous apportent presque rien, car, eux comme nous, ils ont dégringolé en route. Le café, il n'y en a presque pas. Encore, nous, il y en a un peu. On nous donne un demi-quart chacun, puis presque autant de gouttes. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le trouve trop fort. Et comme je veux voir la charge dans la réalité, je ne veux pas être sous l'alcool. Je jette ma part. Les obus commencent à tomber. Les balles sifflent. Déjà, les blessés commencent à passer. Nous sommes là, à regarder, en attendant, espérant toujours qu'il n'y aura rien pour nous. J'étais avec le sergent Fourier, l'adjudant et les copains de l'escouade quand tout à coup un obus tombe à nos pieds. Je suis renversé, la figure fouettée par la boue avec une telle violence que je crois être blessé à la tête. Je porte ma main à la figure, je débouche mes yeux, je respire un peu, je vois, je me relève, je vois du sang sur mon pantalon, je crois être blessé à la cuisse, je tâte. Rien. Et je m'aperçois que c'est du bras que sort le sang. En effet, j'ai le bras malade, mais je n'avais rien senti du tout. Les deux qui étaient à côté de moi ne se relèvent pas. Ils râlent, c'est terrible. Moi, je m'en vais au poste de secours où je trouve beaucoup de copains. Là, on nous fait un léger pansement avec une fiche sur la momie. Je lis. Plaie pénétrante à l'avant-bras gauche. Nous partons pour le poste de secours qui est installé dans un village à moitié démoli, à 6 kilomètres de là. Pour nous y rendre, il faut repasser en plein jour, là où nous sommes passés la nuit sous les obus. De temps en temps, un obus tombe à peu de distance, et cela tout le long du chemin. On souffre déjà pas mal de la canonnade, car on voit des blessés qui défilent de tous côtés. De ce poste, nous devons repartir vers un autre à 12 kilomètres, à l'entrée du village Audiomont. De là, nous voyons tout le front des éparges, les tranchées et le village ont été pris. Mais de notre régiment, le 91e, il est tombé 900 hommes et 24 officiers.
1er février 1918, les éparges, tranchées de Calonne. Nous touchons une grosse ration de gnôles. Nous devinons ce qui va se passer. Une compagnie du 7e colonial vient prendre position à nos côtés dans la nuit, pendant que les crapouillots et nos 75 bombardent les tranchées d'en face. Nous réparons les boyaux complètement écrasés. Il pleut à torrents et sommes trempés jusqu'aux os. Nous n'avons plus rien d'humain et sommes décidés à nous faire tuer sur place. Le bombardement continue de toutes parts. Malgré cela, nous avons pu être ravitaillés en pain et en vin. Si la mort venait, ce serait une vraie délivrance, car nous ne savons pas quand nous pourrons sortir de cet enfer. Nous sommes couverts de boue. 7 juillet 1918. Je reçois la croix de guerre avec citation à l'armée signée Pétain. Je n'en suis pas plus fier et décide de ne pas la porter, étant donné que je ne la mérite pas plus que ceux qui étaient avec moi.
Peiné pour lui, pourquoi donc il se pelotonnait dans tes bras, et que lui as-tu doucement chuchoté, jusqu'à ce qu'il te l'ait enlevé, pour les tranchées, mère, pour les tranchées. Mon garçon, peux-tu encore penser à ton père? Ton père te prenait souvent dans ses bras, et voulait te donner une dringuelle. Il jouait aux gendarmes et aux voleurs avec toi, jusqu'à ce qu'il te l'ait enlevé. Pour les tranchées, mon garçon, pour les tranchées. De l'autre côté, les camarades français se trouvent auprès des travailleurs anglais. Tous ont perdu leur sang. Abattus reposent aujourd'hui homme contre homme, des vieux, des hommes, des jeunes gars. Dans leur grande fosse commune. Ne soyez pas fiers des décorations, des médailles. Ne soyez pas fiers des cicatrices et du passé. Dans ces tombeaux envoyèrent les jeunes cœurs le délire d'état, les désirs des industriels. Vous faisiez bonne pitance pour les corbeaux, pour la tombe, camarades, pour les tranchées. Pensez aux râles de mort, aux gémissements. De l'autre côté, il y a des pères, des mères, des enfants qui triment dur comme vous pour vivre un peu. Ne voulez-vous pas leur donner la main? Tendez une main fraternelle. C'est le plus beau de tous les cadeaux. Par-dessus les tranchées, les gars, par-dessus les tranchées.
jetez les drapeaux, les fanfares militaires, joue toujours votre danse de mort. Et quand vous êtes crevé, une couronne d'immortels, voilà le remerciement de la patrie.
Avril 1917, caserne Sully, Nogent-le-Rotrou. 12h30, rassemblement dans la cour pour la sortie. Le capitaine dit que tout à l'heure, au réfectoire, un jeune chasseur s'est vanté qu'au front, il mettrait 12 balles dans la peau du capitaine. Il demande que ce jeune chasseur se dénonce. Comme on ne trouve pas ce chasseur qui est du Nord, et apparaît-il le teint basané, le capitaine nous fait tous remonter dans nos chambres pour nous remettre en bourgeron et calot, de façon à ce que le cuisinier puisse reconnaître le chasseur en question. On ne le trouve pas, malgré le contrôle de toutes les escouades.
Juillet 1917, Provins. Il faisait chaud, très chaud. Il était environ 10 heures. Nous marchions depuis le matin, avec, naturellement, la pause de 10 minutes toutes les heures. La fatigue aidant, on criait « la pause ». On crevait de chaleur, harnachés comme des bourricots. Le sac pesait 35 kilos minimum, plus le reste. Nous entendons un coup de sifflet, nous formons les faisceaux, sac et fusil réglementairement alignés, nous nous étendons sur l'herbe. De bouche à oreille se transmet une information. À la fin de la pause, au lieu d'obéir au sifflet, on reste couché. Ce qui fut fait. Après plusieurs essais, le capitaine rassemble les chefs de section. Que se passe-t-il? Réponse, les hommes veulent bien repartir, à condition que les officiers descendent de cheval et prennent un sac et un fusil. Ce qui fut fait.
N, secteur du chemin des Dames, juin 1917. Sommes bombardés, très sérieux. Les arbres de la position sont fauchés, le lieutenant est tué. Calme, beau temps. On a fusillé 2 alpins qui s'étaient révoltés et condamné 10 à quelques années de travaux publics. C'est pour calmer la morosité générale. La guerre est si longue.
25 février 1916, ferme de Navio dans la Marne. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne reviendront pas, que de familles endeuillées. Tu vas dire que je n'ai pas beaucoup le caractère militaire, mais c'est honteux de voir ce que l'on voit ici tous les jours. Les camarades tombés sur la plaine, le ventre au soleil, et c'est une infection que nous respirons. Pour nous remonter le courage, ils ont fusillé 2 types du 315e la semaine dernière. J'aurais bien d'autres choses à te dire, mais je risque la prison.
Lettre d'un officier fusillé. 11 juin. Ma petite femme adorée, nous avons, comme je te l'ai dit, subi un échec. Tout mon bataillon a été pris par les Boches, sauf moi et quelques hommes. Et maintenant, on me reproche d'en être sorti. J'ai eu tort de ne pas me laisser prendre également. Maintenant, le colonel Bernard nous traite de lâches, les 2 officiers qui restent, comme si à 30 ou 40 hommes, nous pouvions tenir comme 800. Enfin, je subis mon sort. Je n'ai aucune honte. Mes camarades qui me connaissent savent que je n'étais pas un lâche. Mais avant de mourir, ma bonne Fernande, je pense à toi et mon Luc. Réclame ma pension, tu y as droit. J'ai ma conscience tranquille. Je veux mourir en commandant le peloton d'exécution devant mes hommes qui pleurent. Je t'embrasse pour la dernière fois, comme un fou. Crie après ma mort contre la justice militaire. Les chefs cherchent toujours des responsables. Ils en trouvent pour se dégager. Mon trésor adoré, je t'embrasse encore d'un gros baiser, en songeant à tout notre bonheur passé. J'embrasse mon fils aimé, qui n'aura pas à rougir de son père, qui avait fait tout son devoir. De Saint-Romand m'assiste dans mes derniers moments. J'ai vu l'abbé Heinz avant de mourir. Avant de mourir, je vous embrasse. Tous. toi encore, ainsi que mon Luc. Dire que c'est la dernière fois que je t'écris. Oh, mon bel ange, sois courageuse, pense à moi, et je te donne mon dernier et éternel baiser. Ma main est ferme, et je meurs la conscience tranquille. Adieu, je t'aime.
Soldat Kino, ma chère femme, je t'écris mes dernières nouvelles. C'est fini pour moi. C'est bien triste. J'ai pas le courage. Pour toi, tu ne me verras plus. Il nous est arrivé une histoire dans la compagnie. Nous sommes passés 24 au conseil de guerre. Nous sommes 6 condamnés à mort. Moi, je suis dans les 6, et je suis pas plus coupable que les camarades, mais notre vie est sacrifiée pour les autres. À autre chose. Si vous pouvez m'emmener à Vallon, je suis enterré à Vingré. Dernier adieu, chère petite femme. C'est fini pour moi. Adieu à tous, pour la vie. Dernière lettre de moi, décédé au 298e régiment d'infanterie, 19e compagnie, pour un motif dont je ne sais pas bien la raison. Les officiers ont tous les torts, et c'est nous qui sommes condamnés pour eux. Ceux qui s'en iront pourront te raconter. Jamais j'aurais cru finir mes jours à Vingré, et surtout d'être fusillé pour si peu de choses, et n'être pas coupable. Ça s'est jamais vu, une affaire comme ça. Je suis enterré à Vingré. À autre chose, si vous pouvez m'emmener à Vallon.
Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort, et deux fois mort. À vos petits-enfants, on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme, elle bavait encore devant l'uniforme, mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de la Marseillaise qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de faire comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrez-vous verrons-nous gagner votre cause? J'en doute, à voir le train dont vont les choses. Mutin de 1917, mutin de 1917.
Ainsi se termine cette émission de notre série « Guerre à la guerre » à travers des évocations anti-hagiographiques de la guerre 1914-1918. Elle était composée d'extraits de lettres ou carnets de guerre de combattants dits par Combord, homme de lettres et de théâtre, et par ailleurs animateur à Radio Canu de son émission « Petit A dans le Mou », Combord que nous remercions chaleureusement, et dit aussi par nous-mêmes en alternance. Il y a aussi quelques dictions extraites d'émissions de France Culture que nous remercions. Les illustrations musicales que vous avez entendues sont successivement « Au ravin des enfants perdus » de et par Dominique Grange, par Anna Schugala sur un air de musique traditionnelle allemande « Es war einmal ein treuer Husar », puis par Linard Bardil, une autre version de Der Graben, le texte de Kurt Tucholsky, mis en musique par Hans Eisler. Ensuite, une troisième version en langue française de la chanson La Tranchée, dans une version inédite créée spécialement pour cette émission par André Bonhomme, qui bien sûr en a écrit la musique. Qu'il en soit largement remercié. Et enfin, vous avez pu entendre de Jacques de Boncart, paroles et musique, dans l'interprétation de Serge Géroyot, mutin de 17. Bonsoir. Thank you.
Thank you.